de Francis Chevassu, Visage. Que n'est de beau repère? Que n'est de beau repère est un des rares hommes de ce temps qui ait le privilège de provoquer des jugements passionnés. Avec lui, on ne conserve aucune mesure, on le hait ou on le vante. Son nom appelle l'injure ou l'apologie, jamais l'indifférence. Les magistrats l'accusent de ne pas avoir accueilli avec assez de sérénité sa rapide fortune. Les hommes de lettres lui reprochent de ne pas avoir supporté avec assez de patience la médiocrité de son génie. En dépit de ses faiblesses, M. Quesnay de Beaurepaire reste une figure qui requiert l'attention. On rencontre dans Le Berger une phrase significative. Aujourd'hui, les pâtres ne s'entraident plus et les chiens ont perdu le goût de combattre. Cette remarque de Jules de Clouvet éclaire singulièrement Monsieur de Beaurepaire. Il est le dernier chien de garde de la société. Quand le monde va à la débandade et que les présidents flirtent avec les loups, il continue sa garde. Il mord avec un semblable entrain les ennemis qui rôdent autour du troupeau et les bonnes bêtes libérales qui, comme la chèvre de M. Seguin, vagabondent au gré de leur humeur romanesque. Aussi, les gouvernements lui donnèrent-ils de beaux colliers. Mais ce serait méconnaître la complexité de son caractère que de rabaisser son ambition à une petite intrigue. Il y a, en effet, en M. de Beaurepaire, deux hommes, dont il est amusant de suivre sous l'hypocrisie du masque les réactions intimes, les sourdes compétitions et les empiétements indiscrets. C'est le magistrat et c'est l'homme de lettres. Acteur impatient, cabalant sans cesse pour la préséance sous le regard du témoin réfléchi qui surveille leur manège, règle leurs allures et tient la bride à leur passion. Cette dualité qui lui fit reprocher parfois de composer les réquisitoires en romancier et les préfaces en juge d'instruction explique ses défiances à l'endroit de tous les novateurs, des utopistes qui placent leur doctrine, explosive dans les cerveaux simples et les anarchistes de la langue qui déposent leur néologisme dans le dictionnaire. C'est avec la même jalousie farouche qu'il défendit le Sénat, l'Institut, la Constitution de 1875 et l'idéalisme. L'idéalisme ne prend pas d'ordinaire, pour s'affirmer, ses grands airs de bataille. Il s'insinue avec plus de modestie dans les paysanneries de George Sand ou dans les idylles de Bernardin de Saint-Pierre. La bonne ménagère qui s'exaltait l'imagination en buvant des bols de lait et l'ingénieur sensible qui avait rapporté dans ses yeux les paysages frissonnants de l'île Bourbon aimait la nature pour elle-même. L'espèce d'ingénuité, l'abdication d'orgueil que comportent les communions avec le grand pan, était facile à leur doux génie. Ils n'avaient le souci ni de leur importance, ni de leur responsabilité, ni de leur devoir. C'est moins en poète qu'en propriétaire rural que M. de Glouvet traverse la campagne. On ne découvre dans ses descriptions informées aucune de ces trouvailles qui relient une couleur de paysage à une nuance d'âme et qui inspirèrent à Amiel son mot fameux, si profond et si tendre « Un paysage est un état de l'âme ». Même sous la vareuse du chasseur, il reste le magistrat. ambitieux de vaincre et non de discourir. Même sous la vareuse du chasseur, il reste le magistrat qui tient l'idéal pour un jeu distingué de bonne société, un mensonge officieux utile au maniement des peuples et réserve le mal comme une notion défendue aux profanes, un secret de classe privilégié qu'on se chuchote entre gens avertis au fumoir et qui défraie les confidences des initiés. Aussi bien les héros de ces histoires champêtres sont-ils moins les figurants dociles de son rêve que les comparses disciplinés, les témoins d'office de son système. Les paysans, appelés à comparoir dans ses livres, doivent, de gré ou de force, avouer leur poésie. Le moindre pastour apporte son argument à la cause, avec la conscience qu'il sert l'État, la République démocratique et morale, à laquelle Montesquieu donna pour fondement la vertu. Et il ne faut pas qu'il bronche. À défaut de forestiers malléables et de bergers complaisants, ce spiritualiste belliqueux ferait, entre deux gendarmes, déposer Atala et Virginie. Peu s'en fallut qu'un jour il ne citât M. Émile Zola pour injure à la bucolique devant l'institut érigé en haute cour. Une telle variété d'aspects, une semblable mobilité d'allure font qu'on assujettirait ce visage remuant dans le cadre d'aucun groupe, qu'on le rapporterait malaisément à un type professionnel. Il décèle en même temps de la raideur, de la souplesse, du trucage et de l'autorité. Derrière le profil agressif au nez volontaire, le petit œil agile, d'un bleu déteint, met une ruse de paysan madré. Sous la toque posée cavalièrement, la bouche sinueuse et fine évoque ces vieux pastels de procureur, aux minces lèvres desquelles voltige encore l'ironie mal fixée par la poussière des siècles. On ne lui voit pas enfin ces favoris majestueux que les magistrats jaloux d'un faste pacifique caressent d'une main distraite en écoutant les détails d'un beau crime ou laissent indolemment traîner sur les paperasses quand ils consultent leurs notes. Il arbora longtemps sur chacune de ses joues maigres de courtes pattes de nuances indécises, juste ce qu'il faut pour témoigner de sa considération au justicier classique. Mais il finit par se libérer tout à fait de ses agréments qui alourdissent sa figure et solennélisent la démarche. Le sacrifice consommé il y a quelques années eut une importance capitale. Il dégagea du magistrat, homme de lettres, un troisième compère qu'on soupçonnait déjà sous l'appareil auguste et fallacieux du masque conventionnel, le comédien. Ce comédien ne constitue pas le personnage, il l'interprète. Il est l'agent avisé, l'attentif Barnum qui relie ensemble les deux autres, associe leurs efforts et les fait fructifier par de prudents avis. Le cabotinage dont on discerne la trace en beaucoup de têtes contemporaines, dans un regard, dans un geste, dans une attitude, ne mérite pas les anathèmes dont on l'accabla. L'homme qui édifierait aujourd'hui sa réputation sur son talent tout nu ressemblerait au capitaliste à ses vieux jeux pour placer son argent à 3%. Le cabotinage, en somme, est la science du savoir-faire. Il enseigne à l'ambitieux pressé tout ce que la mise en scène ajoute au courage, l'à-propos à l'indignation et l'actualité à la morale. Monsieur Quesnay de Beaurepaire ne méprisa jamais cette plus-value que l'entente de l'arrangement théâtral apporte au mérite. Les bruyants exploits du franc-tireur de 1870 nous avait édifié sur son goût de la bravoure décorative avant que les petits papiers de Lucie Herpin ne nous attestasse sa faiblesse pour la modestie tapageuse. C'est dans l'expression des sentiments moyens qu'il excelle. Quand il se résout à aborder le genre sublime, la préoccupation d'affirmer son lyrisme le pousse à forcer les effets. Il s'écrie « Ces chevaliers de la dynamite, vous riez, misérable, il abattit sur elle une main d'oiseau de proie. » Sa voix traînante de paysan bas-normand qui s'insinue avec adresse dans le dédale des arguties accompagne malaisément l'inspiration sur les hauteurs. On put admirer l'ancien procureur général dans ce rôle, mais comme on applaudit Coquelin quand il joue Chamillac, pour le tour de force. Le véritable emploi de M. Quenet de Beaurepaire est celui qu'en argot de coulisses, on appelle l'emploi des raisonneurs. Il faut s'entendre. Ces distinctions n'ont pas pour but de travestir notre homme en battleur. Entre la science du contrefaire les mérites, dont on est privé, et l'art de mettre en lumière les vertus qu'on possède, il y a une différence. Dans le second cas, on ne prétend pas à duper le public, on lui adresse au contraire un hommage en confessant la noble préoccupation de le faire entrer dans le secret des qualités qu'on se reconnaît. Ce désir de prendre le monde pour confident de son génie est au demeurant très humain. Les caprices de la fortune contraignirent Jules de Glouvet à se faire un oreiller dans l'impopularité, mais il fut toujours curieux de cueillir les fleurs fragiles et éphémères du succès. L'auteur de Marie Fougère a parlé des gros tirages et des vogues de réclames avec une amertume d'amant éconduit. L'échec du père, au vaudeville, demeura longtemps une blessure cuisante à son amour-propre d'écrivain. Est-ce à dire que son caractère recula devant les formalités nécessaires pour conquérir les bonnes grâces de la faveur publique? L'ambitieux, écrit La Bruyère, a autant de maîtres qu'il y a de gens utiles à sa réussite. Comme le berger de son roman oint son corps de plante pour flatter l'odorat du loup, Monsieur de Beaurepaire sut se parfumer d'encens pour apprivoiser les sympathies ombrageuses des pontifes littéraires. Son astuce de chasseur expert à lever le gibier sous les futaies dépista les vanités en souffrance dans le cœur des académiciens influents. C'est ainsi qu'il conquit l'amitié puissante de Madame Adam. Quand cette dame charitable tenait un salon où les philosophes de la République athénienne renouvelaient le banquet de Platon dans des services de vieux Sèvres avec les perfectionnements que la découverte de la truffe procure au festin moderne. Les invités de ces agapes démocratiques trouvaient communément une ambassade ou une trésorerie sous les serviettes. Le débutant de la nouvelle revue connut l'agréable surprise de découvrir un jour sous la sienne une nomination de substitut au parquet de la Seine. C'est ainsi qu'on aperçoit toujours, derrière la pompe de M. Quenet de Beaurepaire, la maigre et insinuante silhouette de Jules de Glouvet. Telle est précisément la raison qui rend si passionnante l'étude du personnage. C'est qu'on aperçoit réunis en lui deux des intrigues les plus curieuses de la vie contemporaine, celle du magistrat et celle de l'homme de lettres. Elles se mêlent, s'entrecroisent, s'enchevêtrent sous la surveillance de l'esprit qui les surveille et les gouverne, qui embrouille et dévide en se jouant leur écheveau compliqué. Jules de Glouvet, ayant poussé à la cour M. de Beaurepaire, pouvait compter sur la gratitude de son alter ego pour appuyer ses ambitions académiques. L'Institut témoigna toujours d'une faiblesse maternelle aux fonctionnaires considérables. L'autorité du magistrat en fortifiant les adjectifs du romancier, faisait de celui-ci un candidat présentable, et la dignité académique désignait naturellement le fougueux auxiliaire du pouvoir pour la retraite somptueuse de la Cour de cassation. Mais dans cette comédie, c'est le dernier acte qui est le plus difficile à réussir. Peut-être, dans le cas présent, vaut-il mieux qu'il ait avorté. Le faste pacifique du palais Mazarin, où l'on honore guère la vertu quand de vieux serviteurs affaiblis et hors d'état de nuire, n'était pas pour séduire le tempérament belliqueux de monsieur de Beaurepaire. La paisible majesté de la cour suprême ne convenait pas davantage à ses instincts de lutteur. Elle rappelle trop ces chasses décoratives où d'augustes invités, tranquillement assis sur une chaise, tirent à bout portant les grosses pièces qu'on rabat devant eux. On n'y trouve pas, comme à la cour d'appel, l'émoi de la lutte, l'attrait de la découverte et ce stimulant si flatteur pour un homme d'action, une légère sensation de danger.